France Culture.
Là, on va rentrer en fait dans l'industrie active de la zone industrielle avec à notre gauche une aciérie. À droite, on a un site qui fabrique les composants basiques du PVC. Le PVC, c'est cette sorte de plastique qui compose, qui forme nos fenêtres, double vitrage. Voilà, le PVC, c'est un plastique qui est très utilisé dans la construction, dans les emballages. Voilà. Et ici, c'est de la chimie du chlore, donc qui est fait sur ce site-là. Et là, on est en train de passer à côté d'un autre site industriel qui, lui, fabrique des additifs pour les carburants des voitures, des avions, etc. Donc là, c'est typiquement de la pétrochimie. On a la chimie du chlore, la pétrochimie, on a vu de l'aciérie, de la sidérurgie.
Maladie chronique, ce qui nous traverse. Une série d'Alice Le Filleul et Julie Béressi. Troisième épisode, nos corps pollués.
Alors on vient de dépasser deux incinérateurs, un incinérateur, donc un centre de traitement des ordures ménagères à notre droite, celui des ordures de la zone marseillaise.
Philippe Chamaret, directeur de l'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions de Fos-sur-Mer.
Et puis à notre gauche, c'est un incinérateur industriel qui élimine des produits ou des déchets qui sont apportés par des industriels. Là, en face de nous, on a du travail de déchargement de ferraille, donc qui seront très certainement utilisés dans les aciéries et dans les sites en fait, qui produisent et qui transforment l'acier sur la zone. Donc à chaque fois qu'on avance sur la zone industrielle ou portuaire, on change de polluant. On complète la liste assez longue des substances qui sont émises par l'activité industrielle ici.
Nous, tout à l'heure, par exemple, quand on va descendre de la voiture, on va respirer ces polluants.
Possiblement.
Chlore, mercure, plomb, hydrocarbures, dioxyde de soufre, PFAS, oxyde d'azote, néonicotinoïdes, perturbateurs endocriniens. La liste est longue, les polluants sont partout. La population mondiale d'oiseaux a décliné de 20% en 40 ans, tandis que celle de certains insectes s'effondre. Et nous, humains, comment pouvons-nous encore croire que nous sommes imperméables à cette chimie omniprésente? Les maladies chroniques sont non transmissibles. Ce sont nos corps qui dysfonctionnent. Lorsque la mienne s'est déclenchée, j'ai fait la liste de tout ce à quoi j'avais été exposée depuis l'enfance. Les nuggets de poulet aux hormones, les anti-moustiques, le centre de recherche sur le nucléaire pas loin de chez moi, les pesticides sur les légumes avant le bio, les couleurs pour teindre mes cheveux en rouge, les hydrocarbures de la région parisienne, les engrais artificiels qui finissaient dans les rivières où je me baignais l'été, le film plastique. La liste était sans fin et j'ai eu le vertige. Alors, pour cet épisode, j'ai eu envie de comprendre s'il était possible de faire le lien entre maladie chronique et pollution. Et je me suis rendue à Fos-sur-Mer. Au bord de la Méditerranée, s'étend la deuxième plus grande zone portualo-industrielle de France. Dans ce ventre du capitalisme et ce décor d'usine, j'ai rencontré Philippe Chamaret. Directeur de l'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions, il travaille à décrypter toute cette chimie qui nous entoure.
Alors, ce qu'on voit ici, on est face à la Darse 1 du grand port maritime de Marseille. Alors une darse, c'est un dock, un renfoncement dans la terre qui est bordé par des quais. Et on a, et ce qu'on entend, un déchargement de ferraille destiné à l'activité de l'aciérie, en fait. Et on a également, derrière ce déchargement de ferraille, des installations de stockage de minerais et de gravats. Quand on passe de l'autre côté de la darse, on a le site d'ArcelorMittal, donc un site sidérurgique avec les tas de minerais de charbon et de fer. Donc on voit bien la différence de couleur entre le charbon qui est gris anthracite et le minerai de fer qui est couleur rouille. Ces minerais, ils vont prendre des chemins un peu différents au début de leur vie. Le charbon va se faire, entre guillemets, purifier au sein de la coquerie et il va rejoindre le minerai de fer dans l'atelier d'agglomération qu'on voit, c'est la grande cheminée, la plus grosse en fait, qui est en face de nous. Et là, tout le principe, c'est d'agglomérer, c'est-à-dire de faire une sorte de couscous un peu grossier qui mélange le minerai de fer et le charbon, et le coke. Et tout ça va aller dans les hauts fourneaux qu'on voit, donc ce sont ces tours avec des pattes un peu inclinées. Donc il y a deux hauts fourneaux à Fos-sur-Mer, à Dunkerque, il y en a trois. Et ces hauts fourneaux, en fait, vont faire fondre ce minerai de fer pour en faire justement de la fonte. Et cette fonte-là, ensuite, elle va prendre le chemin par train à l'intérieur du site, dans des wagons qui ressemblent à de grosses bouteilles thermos, où on va conserver la fonte à l'état de fusion pour aller à l'aciérie, où là, on va brûler le carbone qui est dans la fonte pour faire ce qu'on appelle de l'acier.
Là, visuellement, donc on a un grand panache de fumée blanche, mais également un nuage, il faut le dire, un petit peu jaune.
Alors effectivement, il y a deux types de couleurs de panache. Le panache de couleur blanche, eh bien, c'est de l'eau, tout simplement, je dirais, entre guillemets, puisque cette eau-là est accompagnée également de cette couleur un peu jaunâtre qui est issue du raffinage du minerai de charbon en coke. Donc en fait, c'est une activité qui génère des choses qui sont visibles comme ça, qui sont des panaches, mais il y a aussi tout ce qui est invisible, et c'est ce qui caractérise les contaminations. Et c'est là tout le problème des contaminations, c'est que pour pouvoir les voir, il faut les mesurer. Et pour pouvoir les mesurer, il faut avoir le nez dessus.
Justement, là, on voit une flaque à la surface de l'eau, donc on est au bord de la mer Méditerranée, enfin du golfe, donc la mer qui rentre dans le golfe de Fos, et on voit bien sur notre droite que l'eau à la surface est recouverte d'une sorte d'écume blanche verdâtre un petit peu. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ?
Alors là, c'est le rejet d'une centrale thermique à gaz. Donc c'est de l'eau de refroidissement qui est également accompagnée par du chlore, puisque pour refroidir les installations, eh bien, cette centrale, comme toutes les centrales, utilise de l'eau et injecte dans l'eau de mer une quantité d'eau de Javel qui leur permet en fait de limiter le développement de moules de coquillages en fait dans les conduites. Donc cette eau qui est rejetée comporte une petite partie de cette eau de Javel qui pose un certain nombre de problèmes une fois rejetée dans l'environnement, puisque comme on le sait, l'eau de Javel n'est pas forcément l'ami du vivant.
Pour la première fois dans l'histoire du monde, l'homme vit au contact de produits toxiques, depuis sa conception jusqu'à sa mort. Les pesticides synthétiques ont été si généreusement répandus dans les règnes animal et végétal qu'ils s'en trouvent virtuellement partout. On en extrait de la plupart des grands ensembles fluviaux et même d'invisibles rivières souterraines. On en rencontre dans les sols où ils se sont déposés 10 ou 12 ans plus tôt. On en découvre dans le corps des poissons, des oiseaux, des reptiles, des animaux domestiques et sauvages à tel point que les laboratoires n'arrivent plus à trouver pour leurs études des bêtes exemptes de toxiques. On a trouvé ces poisons dans les poissons de lacs perdus parmi les montagnes, dans des vers de terre enfouis profondément, dans des œufs d'oiseaux et dans l'homme lui-même. Ces produits chimiques existent maintenant dans le corps de la grande majorité des gens, quel que soit leur âge. Il y en a dans le lait maternel, et probablement dans les tissus des enfants à naître. Printemps silencieux, Rachel Carson, 1972. Philippe Chamaret, qu'est-ce que ça signifie, un institut éco-citoyen et pour la connaissance des pollutions ?
Alors, l'institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions, ça signifie être un centre d'études sur l'effet des pollutions en matière de santé et d'environnement. C'est-à-dire c'est un centre qui invite la recherche publique essentiellement, sur un territoire tout à fait particulier, un territoire industriel, un territoire où roule énormément de camions, qui est concerné par la logistique, un territoire aussi où il y a de l'agriculture. Donc c'est un territoire qui est exposé à un certain nombre de polluants. Et l'Institut éco-citoyen, c'est en fait ce centre d'études qui va étudier ces polluants pour mieux connaître leurs effets et la façon qu'ils ont de faire ces effets.
Qu'est-ce que ça veut dire être contaminé ?
Alors être contaminé, c'est avoir dans le corps des substances qui naturellement ne devraient pas s'y trouver. C'est-à-dire c'est être porteur de molécules, de substances qui sont issues de ce qu'on a inventé. Donc ça peut être des métaux, ça peut être des dérivés de l'essence, ça peut être du plastique. Aujourd'hui des PFAS qui sont sur la sellette. Bref, ce sont des composés chimiques qui sont issus de nos modes de vie, de l'utilisation qu'on a de nos multiples inventions. Et c'est aussi le résultat de la production de ces objets-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement pollué par un objet de consommation courante, on est aussi pollué par tout ce qui a fait pour produire cet objet-là. C'est ça, une contamination. Et une contamination, elle a pour caractéristique d'être, en général, je dis bien en général, il y a des cas évidemment où on a des contaminations fortes, mais dans le cas général, quand on parle de contamination, on parle de concentrations extrêmement faibles. Donc ces concentrations faibles, on se rend compte aujourd'hui qu'elles ont un effet sur la santé, un effet de fragilisation. C'est pas forcément une contamination faible qui provoque une maladie, mais on a une fragilisation de l'état de santé qui rend très certainement plus vulnérable la personne à d'autres attaques de la vie, c'est-à-dire peut-être d'autres polluants, mais aussi des environnements, pourquoi pas, psychosociaux. Voilà.
Est-ce qu'on pourrait prendre un objet, par exemple un Tupperware en plastique, et réfléchir ensemble, depuis sa fabrication jusqu'à son arrivée dans notre placard de cuisine, qu'est-ce qui nous contamine ?
Alors, si on reste à Fos, le Tupperware, il est fait de plastique. Donc, il va falloir fabriquer ce plastique-là, ce qui engendre le mélange de différentes substances qu'on appelle des composés organiques. En général, ça provoque des gaz, et donc on peut être déjà exposé à ces gaz-là. Ensuite, il va falloir de l'énergie pour fabriquer ce Tupperware. Donc, cette énergie-là, elle va consommer également, alors soit de l'électricité, ce qui provient du nucléaire, mais aussi, ça peut être du gaz. Donc, on a une émission, encore une fois, de certains composés dans l'atmosphère. Donc, au niveau de l'usine qui va fabriquer le Tupperware, on aura un risque, et en général un fait, d'émission de composés organiques, parfois de métaux, qui peuvent être sous la forme de particules, mais aussi sous forme gazeuse. Donc on a une multiplicité, ne serait-ce qu'avec un simple objet comme un récipient en plastique, sa fabrication engendre une multitude de polluants de multiples formes possibles. Et c'est là le début de la complexité. Il va falloir se pencher sur chaque polluant pour mieux connaître les risques engendrés par la fabrication de cet objet. Et ensuite, le récipient en plastique, il va falloir le transporter, et donc ça va engendrer toute la chaîne logistique associée à ça.
Il suffit de 5 minutes de promenade dans un supermarché pour effrayer le client le plus intrépide, lorsqu'il connaît un peu la nature des produits chimiques offerts à son choix. Si l'on pendait un énorme crâne et deux tibias entrecroisés au-dessus du rayon des insecticides, l'acheteur regarderait la marchandise avec la déférence accordée en général aux produits mortels. Mais tout au contraire, l'étalage cherche à se faire aimable et réjouissant. Les boîtes d'insecticides élèvent leur pyramide entre les bocaux d'olives et de condiments d'un comptoir, et les savons et les lessives d'un autre. Printemps silencieux, Rachel Carson, 1972.
Je suis Maxime Jean-Jean, épidémiologiste, environnemental, responsable santé-environnement à l'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions à Fos-sur-Mer. Alors, l'épidémiologie, c'est une des disciplines de la santé publique. C'est une discipline qui vise à étudier la fréquence des troubles de santé en population et qui cherche aussi à étudier les déterminants de ces troubles de santé, voire même d'essayer de travailler sur une prévention de ce fardeau environnemental lié à ces déterminants qui influencent ces troubles de santé.
Quand on s'intéresse aux maladies chroniques, on rencontre souvent cette description historique qui nous dit qu'à la moitié du XXe siècle, il y a eu une bascule épidémiologique où on serait passé d'une majorité de maladies transmissibles, virales, infectieuses, à une majorité de maladies chroniques. Pourquoi est-ce que ça fait sens de se poser la question de la santé environnementale quand on réfléchit à cette bascule épidémiologique ?
Alors, il y a eu une augmentation effectivement des maladies qui étaient considérées comme rares à l'époque, à forte latence, c'est-à-dire qu'on peut être exposé à un ensemble d'éléments, de facteurs environnementaux et déclencher une maladie plus tard. Et maintenant, on est plutôt dans un consensus où on a mis de côté, ou du moins on a diminué l'effet de la part génétique ou des risques infectieux, plutôt vers, on l'a tourné plutôt vers les facteurs environnementaux qui commence à prendre une place plus prégnante. On sait que les maladies chroniques sont multifactorielles, pour certaines très multifactorielles. Ça veut dire que vous avez potentiellement plusieurs facteurs qui vont déclencher la maladie, plus ou moins rapidement. Et ces facteurs, ils peuvent être de différentes natures. Ça peut être des facteurs biologiques, ça peut être des facteurs physiques comme les radiations, et puis aussi ça peut être des facteurs chimiques. Mais à tout cela peut aussi se superposer les inégalités sociales de santé. Donc ce sont des déterminants qui vont nous façonner et déclencher plus ou moins tardivement une pathologie. Ça passe aussi potentiellement par différentes étapes, qui sont maintenant assez bien décrites par la toxicologie notamment, les stress oxydatifs, l'inflammation, des déséquilibres dans la signalisation cellulaire. Et tout ça peut potentiellement déclencher des maladies chroniques. Un stress oxydant peut amener à un processus inflammatoire. Après, on a des cascades de réactions moléculaires qui font que ça va après déclencher une maladie ou déstabiliser un organe. Pour après déclencher cette pathologie qui est définie comme celle qu'on connaît, le cancer, le diabète, des maladies auto-immunes, comme le diabète de type 1 par exemple, qui sont observées sur le territoire.
En fait, c'est au sein des organismes, il va y avoir des déséquilibres qui vont produire de l'inflammation, qui vont à moyen terme ou à long terme, produire de la pathologie.
Voilà, absolument. C'est le corps qui est, qu'on imagine comme continuellement sollicité par l'environnement, qui fait qu'au bout d'un moment, il y a une surréaction, par exemple, du système immunitaire. Et c'est là qu'on parle de maladie auto-immune, parce que le corps s'attaque à notre propre soi.
Et donc, de quelle façon est-ce que les polluants rentrent en ligne de compte dans ces différentes étapes qui provoquent de la pathologie chronique ?
Alors, on a des polluants qui sont en capacité de mimer l'action d'hormones ou protéines. Et donc, on voit bien le problème. C'est-à-dire que si ça commence à prendre la place d'une molécule qui, à la base, a son activité normale au niveau d'une cellule, là, on imagine que quand il y a une surprésence de ces contaminants qui prennent la place et vont déstabiliser des signalisations cellulaires, on voit bien que ça peut déséquilibrer l'ensemble du système et amener à une pathologie. Et on parle souvent de ces perturbateurs endocriniens, c'est exactement ça, c'est que ça prend la place d'une hormone. On a des molécules qui vont se fixer sur des récepteurs et après donner un message particulier à la cellule qui va réagir et faire une cascade de réactions. Et là, en l'occurrence, on peut avoir un polluant qui se fixe sur le récepteur et qui transmet le mauvais message.
Donc je suis le docteur Patrick Courtin, je suis médecin spécialisé en santé environnementale, je travaille au conseil scientifique de l'Institut éco-citoyen et je suis aussi adhérent de l'association des médecins spécialisés en santé environnementale, l'ACEF. Ça fait 30 ans que j'habite le territoire et j'étais le chef de service de la réanimation et l'anesthésie de l'hôpital de Martigues, donc l'hôpital qui se trouve dans le territoire. Et qu'à ce niveau-là, j'ai été confronté régulièrement à suivre des malades en fin de vie de cancer, par exemple. Et donc, à être confronté à la souffrance à la fois du patient quand il était encore en état de s'exprimer, mais aussi des familles. Et donc, en étant confronté à ce problème-là, j'ai été confronté à la question, est-ce que ma pathologie peut être en rapport avec mon parcours professionnel qui a été de travailler pendant 20 ans dans les usines du coin, etc., etc. Question à laquelle je ne pouvais pas répondre.
Qu'est-ce que c'est qu'une pathologie environnementale ?
Pathologie environnementale, c'est les pathologies qui sont produites, qui sont le résultat d'une exposition à des substances présentes dans notre environnement. Alors, il y a des substances qui sont classées cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, qui est une émanation de l'OMS, et qui ont classé des substances comme étant cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, les fameuses substances CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Cancérigènes pour donner du cancer, mutagènes parce que ça provoque des mutations au niveau de l'ADN et donc des pathologies en rapport à ces mutations, et reprotoxiques qui est pathologique sur la reproduction, d'où l'hypofertilité et l'infertilité qui sont très présentes sur nos territoires industriels. Autres substances qui provoquent des pathologies environnementales et des pathologies chroniques sont les fameux perturbateurs endocriniens, très présents dans notre environnement et aussi présentes dans les substances et les molécules utilisées dans l'industrie. Et je ne vous parle pas des autres pathologies environnementales, des troubles du neurodéveloppement qui sont en train d'exploser dans le monde entier, surtout dans les zones industrielles, par, pré-pollution des enfants qui naissent, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'exposition in utero de la femme enceinte qui va prépolluer le fœtus et qui naît prépollué, donc imprégné de substances cancérigènes, de substances perturbatrices endocriniennes, etc., etc.
Christelle Gramaglia, vous êtes anthropologue et vous nous avez proposé aujourd'hui pour nous rencontrer de venir dans un endroit particulier. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on est ?
Oui, alors nous sommes sur la plage Olga. Olga, c'est une petite plage familiale de Port-Saint-Louis-du-Rhône et qui a pour l'avantage d'offrir une vue panoramique sur le golfe de Fos. Alors on aperçoit tout de suite sur la gauche là les grandes grues qui servent sur le port commercial. On a une belle vue sur ArcelorMittal, les éoliennes et puis toute l'entrée là du golfe de Fos pour les tankers qui amènent les hydrocarbures aussi dans le golfe de Fos. Et si on tourne complètement le regard, on a quand même le large et la mer et c'est très beau.
Et derrière nous, on a un petit village de pêcheurs. Ou en tout cas, ce qu'il en reste, est-ce que vous pouvez nous le décrire ?
Oui, c'est un quartier de Port-Saint-Louis-du-Rhône, donc qui est une des deux villes qui bordent la zone industrielle portuaire de Fos-sur-Mer. Ce quartier, Olga, comme la plage, c'est un quartier au départ de cabanons de pêcheurs, qui aujourd'hui s'est transformé en quartier habité.
Et vous avez une relation particulière à ce quartier ?
Je n'ai pas grandi là, mais mes arrière-grands-parents habitaient ici et j'y venais très très souvent en saison, à la plage.
À l'époque où vous baigniez quand vous étiez enfant ici, est-ce que la question de la pollution et de la contamination préoccupait les riverains ?
Quand j'étais enfant, ce n'était pas une question qui me traversait vraiment l'esprit. Bon, moi, je trouvais le paysage pas très joli. J'aurais voulu aller sur des plages qui ressemble plus à des plages idylliques. Mais mon père était très attaché à sa ville et à ce paysage-là, qui est aussi, il faut le dire, un espace de loisirs populaires. Donc vous avez les gens qui travaillent dans la zone industrielle ou portuaire, qui vivent au plus près des usines, mais qui bénéficient aussi de ces espaces un petit peu interstitiels où ils trouvent une certaine tranquillité. Une des particularités de la zone industrialo-portuaire de Fos, c'est d'être très étendue. Vous avez à peu près 10 000 hectares, mais les usines ne sont pas collées les unes aux autres. Il y a beaucoup d'espaces de marécages interstitiels qui sont aussi des lieux où les gens aiment aller pêcher. Paradoxalement, si on n'est pas habitué, on se dit « mais qui irait pêcher à tel ou tel endroit ?» Il y en a qui sont interdits d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'endroits où vous avez même des gens qui viennent d'Avignon spécialement pour pêcher ici, parce qu'ils apprécient le calme.
Et pourtant, quand on vit ici, les usines, elles sont présentes de plein de façons possibles.
Alors ici, c'est très plat. Parfois, quand on est dans son jardin, on peut ne pas voir les usines, mais on les sent. On les sent de plusieurs manières. Les usines, c'est la pollution, en fait. Donc, on va les percevoir par les poussières, par les odeurs, par les fumées. Oui, les pollutions, souvent, quand on les considère sous leur forme moléculaire, elles sont invisibles. Sauf que dans des lieux très spécifiques comme ici, les pollutions s'accumulent et acquièrent une tangibilité certaine. Et cette tangibilité, elle s'exprime sous la forme de poussière, d'odeur et de fumée. Par exemple, dans une petite enquête par questionnaire qu'on a pu mener, on a bien vu que 80% des phocéens se plaignaient des poussières. Et des poussières qu'on va retrouver sur le rebord des fenêtres, sur la table du jardin, sur les rideaux, des odeurs aussi qu'on va retrouver sur le linge quand on l'étend dehors, des paillettes métalliques sur les voitures, sur les bateaux. Voilà, la poussière ici et les odeurs et toutes ces pollutions-là qui se manifestent de manière très matérielle et sensible, les habitants sont en capacité de les décrire.
Qu'est-ce que ça leur pose comme question ?
Alors ça leur pose déjà des questions pratiques. Quand vous avez régulièrement cette poussière métallique, poussière noire qui se dépose chez vous, ça vous oblige à accentuer vos efforts de ménage. Et là encore, dans notre enquête, on s'est intéressé au ménage et 40% des phocéens nous ont dit, parmi les personnes qu'on a interrogées, devoir mettre en place des stratégies de ménage très particulières pour nettoyer les intérieurs. Et la pollution, elle ne reste pas dans le jardin, elle pénètre jusqu'à l'intérieur des habitations. Et évidemment, les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il en est de leurs organismes. on n'est pas là tout de suite sur un laps de temps court sur des pathologies lourdes, mais on est sur une, on va le dire, petite symptomatologie qui est assez dérangeante, des yeux qui coulent, des gorges irritées, des crises d'asthme, tout ça de manière assez régulière, dont on peut se poser la question si ces symptômes ne sont pas précurseurs sur le long terme de maladie. On est quand même dans une situation que les sociologues qualifieraient de insécurité ontologique, parce qu'on ne sait pas si l'air qu'on respire est de bonne qualité. Est-ce que le sol sur lequel on cultive nos légumes, il est de bonne qualité? Est-ce que l'eau qu'on boit est de bonne qualité? Quand vous ne pouvez plus faire confiance aux éléments, eh bien, on est dans cette situation d'anxiété et d'insécurité ontologique.
Alors, je me prénomme Laetitia, j'habite Martigues depuis 1973. Nous sommes venus à Martigues parce que mon mari a eu une mutation suite à une nécessité, parce que j'ai eu des petits jumeaux nés prématurément avec des problèmes de santé, et le pédiatre d'Orléans nous avait conseillé de nous rapprocher d'un département ensoleillé.
Et quel était le travail de votre mari ?
Il était ingénieur de la sécurité à la Solac. Alors, c'est une usine.
Et que faisait votre mari dans cette usine? Qu'est-ce qu'elle fabriquait?
Du fer, de la ferraille. Il ne l'a jamais ramené de vêtements de travail à la maison parce qu'il pensait que ses vêtements étaient contaminés par une certaine pollution. Il ne voulait même pas parler de ses conditions de travail. Il me disait toujours, bébé, si un jour il m'arrive quelque chose, essaie de te renseigner.
Votre mari, depuis, il est malheureusement décédé?
Oui. Alors, mon mari est décédé d'un lymphome, d'un cancer. C'était un très bel homme. Il était champion de France d'haltérophilie et de culturisme. Il ne buvait pas d'alcool. Il surveillait strictement son alimentation. Il n'a jamais fumé. Il était certain que c'était lié à la pollution industrielle, à ce qu'il avait respiré sur place, aux objets qu'il avait touchés, parce qu'il avait aussi travaillé à Alstom. Il était mécanicien à l'époque, et c'est vrai que là aussi, le fer, la ferraille...
Donc tout au long de cette carrière, est-ce que vous vous êtes posé des questions sur les liens qu'il peut y avoir ici entre la pollution et la santé?
Alors, pas vraiment. Ceci dit, les jumeaux nés prématurément on fait de très grosses crises d'asthme, un eczéma, mais alors vraiment important. Donc le pédiatre des enfants, avec qui je travaillais aux urgences, m'avait dit, c'est simple, Laetitia, il faut quitter la région avec les jumeaux. Tes enfants sont victimes de la pollution. Et puis bon, les jumeaux ont fait des études supérieures, donc 18 ans, le bac, la fac, on quitte Martigues, beaucoup moins d'eczéma, pratiquement plus de crises d'asthme. Quand il revenait le week-end à Martigues, la crise d'asthme, elle y était. Chaque fois qu'il partait, ça allait beaucoup mieux. Là, actuellement, il y en a un qui vit à Genève. Plus de crise d'asthme, plus d'eczéma. Et puis un autre, on n'en a plus parlé de tout ça. Donc ça veut bien dire qu'ils ont bien été victimes de mal-être dans la région. Mais par exemple, aujourd'hui, moi, les yeux qui brûlent, les yeux qui sèchent, ça fait 3 fois que je mets des gouttes. Pourquoi? J'ai marché ce matin, j'étais de 7h à 9h, donc je suis sûre que j'ai pris en plein dans les yeux une pollution atmosphérique. Mais je ne sais pas, je n'ai pas téléphoné à Atmosud pour savoir si aujourd'hui il y a de la pollution.
Qu'est-ce que c'est Atmosud?
C'est sur la petite colline là-bas, ils analysent l'air.
Donc vous avez ce réflexe de vous renseigner sur les pics de pollution?
Oui, parce que j'en ai... des perturbations, je veux dire. Vous savez, là, les yeux qui me brûlent, c'est pas agréable.
Le problème, c'est que dans cette zone-là, ici, très souvent, quand on observe ces phénomènes, eh bien, les déclarations officielles sont des déclarations rassurantes qui disent en quelque sorte aux habitants « Ne vous inquiétez pas, on n'a rien mesuré, tout est dans l'ordre du normal ». Et ça, c'est devenu au fil du temps insupportable pour les habitants parce qu'eux, ils ressentent la gêne. Ils ne savent pas mettre des chiffres, ils ne savent pas quantifier, ils ne savent pas objectiver leur gêne. Mais ils la ressentent, ils ont une expérience incarnée des pollutions et ils se sont trouvés face à un mur. Alors peut-être que parfois, effectivement, dans les dégagements, il y a de la vapeur d'eau, mais il n'y a pas que de la vapeur d'eau, ou il n'y a pas tout le temps de la vapeur d'eau. Et ce qu'on demandait les gens ici, c'est que ça soit quantifié et qu'il y ait de la transparence sur les émissions. Les gens mettent en correspondance tout un tas de phénomènes qu'ils ont observés sur ce territoire. Il y a un habitant de Port-Saint-Louis-du-Rhône que j'ai interviewé, par exemple, qui m'a dit que depuis l'installation des usines, en fait, il souffrait du manque d'oiseaux. Et j'ai trouvé ça à la fois très poétique et très alarmant, en fait, sur l'état de notre monde et sur le fait que, voilà, qu'on a ces disparitions un petit peu à bas bruit, parce qu'un oiseau, voilà, c'est pas quelque chose qui va alarmer tout de suite, mais quand on n'en voit plus, c'est un vrai appauvrissement du monde commun, en fait.
La plupart des produits chimiques aujourd'hui entrent sur le marché et qui appartiennent à la catégorie des produits qu'on dit réglementés, donc qui sont soumis à une réglementation.
Stéphane Foucard, journaliste.
Ils doivent être soumis à une batterie de tests toxicologiques qui sont en général des tests sur des cultures cellulaires, sur des cellules, quoi, et des tests sur des animaux. Donc l'information que ça nous donne sur ces produits avant qu'ils n'entrent sur le marché, ce sont des informations sur, par exemple, les modes d'action de ces molécules, comment est-ce qu'elles vont interagir avec le vivant et quels impacts elles vont avoir sur des animaux de laboratoire qui sont exposés à ces produits. Alors, en général, ces études, elles sont très critiquées par la communauté académique pour toute une diversité de raisons. La première, c'est qu'elles sont financées par les industriels qui souhaitent mettre ces produits sur le marché. Ce qui est déjà quelque chose d'assez surprenant. Et quand on en parle aux gens, on leur dit, voilà, c'est Bayer, par exemple, ou Monsanto, qui produit les études sur le glyphosate afin de pouvoir mettre le glyphosate sur le marché. Les gens sont assez surpris. En réalité, c'est comme ça que fonctionne la réglementation. C'est la loi. C'est comme ça que ça marche. Et donc, c'est quelque chose qui est commun à l'ensemble des produits réglementés, y compris d'ailleurs les médicaments. Les études cliniques sont financées par le pétitionnaire, c'est-à-dire l'entreprise qui souhaite mettre le produit sur le marché. Et le deuxième problème, il est peut-être plus problématique, en quelque sorte, il est plus grave. C'est un problème scientifique. Parce que ces études, elles sont fondées sur des présupposés dont on se rend compte qu'ils sont faux. En tout cas, il y a toute une littérature scientifique qui est produite depuis une vingtaine d'années qui montre que les principes sur lesquels sont fondées ces études sont largement invalidés par la recherche. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, les animaux de laboratoire qui sont exposés à ces produits sont exposés à des doses qui sont très élevées. Beaucoup plus élevées que ce qui va finir in fine dans l'organisme des humains par le biais de la chaîne alimentaire, de l'air, de l'eau, etc. Et qu'une grande part des effets qu'on va inférer sur les humains partent du principe que les effets sont graduels. C'est-à-dire que plus la quantité de produits est importante, plus l'effet va être important. Et ça, on sait depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années à peu près, que c'est faux, s'agissant de certains produits qu'on appelle des perturbateurs endocriniens qui interfèrent avec le système hormonal et qui ont parfois, pas tous, mais parfois, comme propriété d'être plus délétères à des doses d'exposition très faibles qu'à des doses d'exposition plus élevées. Donc ça, c'est quand même les deux grandes limites de ce qu'on est capable de savoir sur un produit avant qu'il n'entre sur le marché. Et ensuite, il y a des choses qui sont plus subtiles et qui tiennent à l'accumulation récente de la connaissance sur les effets de ces substances. Alors, il y a deux grandes questions qui sont posées par les dernières avancées de la science. La première, c'est les effets retard. C'est la latence qu'il peut y avoir entre l'exposition à une substance et la manifestation des effets. Et en fait, c'est très contre-intuitif, hein, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément à l'esprit, mais cette latence, elle peut se compter en décennies. Et alors, par exemple, moi j'aime bien donner des exemples parce que sinon on ne sait pas trop de quoi on parle. J'aime bien donner l'exemple du DDT. Le DDT, c'est un pesticide, un insecticide organochloré, persistant, qui a été interdit dans les années 70, un peu partout sur la planète, dans ses usages agricoles. Et il a été retiré du marché alors qu'on n'avait pas encore complètement bien documenté ses effets sur la santé humaine. Et essentiellement, on l'a retiré du marché surtout pour deux raisons. La première, c'est qu'on voyait de manière certaine que ça avait un impact très fort sur la biodiversité, et en particulier les oiseaux. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'était la question de la persistance. C'est-à-dire que c'est une molécule qui se dégrade très lentement dans l'environnement et dans les organismes. Et donc, c'est essentiellement avec ces deux éléments que ce produit a été retiré du marché. Et peut-être à noter qu'aujourd'hui, avec les mêmes propriétés, ce produit n'aurait probablement pas été retiré du marché avec les politiques qu'on a aujourd'hui. Ou en tout cas, il n'aurait pas été retiré aussi rapidement du marché. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché pendant des années et des années les effets sur les humains en situation réelle, au niveau d'exposition normale des gens, les effets de ce produit, et on n'a jamais rien trouvé de très probant sur les maladies graves de type cancer du sein. Il y avait une forte suspicion sur le cancer du sein, on n'a jamais vraiment trouvé ça. Et en 2015, il y a une chercheuse, une épidémiologiste américaine qui s'appelle Barbara Cohen, qui travaille à Berkeley, et qui a eu l'idée d'utiliser des échantillons de sang prélevés sur des femmes qui étaient enceintes dans les années 60. Et elle a fait une classification en fonction de l'exposition de ces femmes au DDT, en fonction de ce qui restait dans leurs échantillons sanguins qui avaient été conservés en chambre froide. Et cette épidémiologiste, qui est vraiment une héroïne de l'épidémiologie, elle est allée rechercher ce qui était arrivé aux filles de ces femmes qui étaient enceintes 50 ans avant qu'elle lance son étude. Et ce qu'elle a pu documenter, c'est que les femmes à l'âge de 50 ans, qui avaient été le plus exposées au DDT in utero, donc par le biais de leur mère, avaient un risque quadruplé de cancer du sein par rapport à celles qui avaient été le moins exposées lorsqu'elles étaient dans l'utérus de leur mère. Donc ça, c'est une découverte, c'est un élément qui est absolument majeur parce qu'il montre qu'on peut rester aveugle aux effets réels d'un produit pendant très longtemps jusqu'à ce qu'un épidémiologiste ait l'idée de tester ce genre d'hypothèse qu'on appelle DOAD, c'est l'hypothèse de l'origine développementale des maladies chroniques et qui dit essentiellement que notre prédisposition, notre susceptibilité à certaines maladies chroniques, elle est en quelque sorte programmée in utero pendant que l'organisme est en train de se construire sous l'effet de différents stress. Ça peut être des stress chimiques, des stress alimentaires, d'autres types de stress, etc.
On vit aujourd'hui dans un monde qui a de plus en plus conscience du risque chronique, de la chronicité du risque plutôt. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on voyait les choses de façon relativement simpliste, je dirais quasiment balistique, où on prenait un polluant et on calculait une sorte de trajectoire, c'est-à-dire son transfert dans l'environnement, et puis il arrivait jusqu'à l'organisme humain pour faire un effet. Et donc c'est tout ce qui a constitué le dogme de la dose et du poison, c'est la dose qui fait le poison, c'est-à-dire que quand on prend un poison ou un polluant déterminé, on considérait que sa toxicité était liée à sa dose. Plus on en prend, plus il est dangereux. Or aujourd'hui, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi simples. Certaines molécules peuvent agir à de très très faibles concentrations. Et c'est là où on peut avoir l'apparition de maladies dont on parle et à la fragilisation de l'état de santé. Donc le risque chronique, il a deux caractéristiques. Il a déjà cette spécificité de la dose très faible, et aussi le temps très long, enfin le temps long, plus long qu'un temps accidentel par exemple. Et puis les risques chroniques, par nature, eh bien ils sont complexes parce que la plupart des molécules qui sont rejetées, et ça va jusqu'à la particule, par exemple une particule ultra fine, quelle que soit sa composition, a un effet sur la santé. Donc il faut considérer les risques chroniques aujourd'hui pour pouvoir évaluer de la manière la plus pertinente possible quelles sont nos vulnérabilités pour pouvoir agir dessus pour pouvoir améliorer les situations et prendre les décisions de prévention qui s'imposent.
Dans le risque chronique, la grosse difficulté, c'est que vous ne savez pas très bien à partir du moment où vous allez être touché, affecté personnellement par ce risque. La géographie même de dissémination du risque est compliquée. On est sur des pollutions, je peux reprendre une image qu'on utilise dans le nucléaire, c'est une dissémination en taches de léopard. Donc c'est pas concentrique et puis au plus on s'éloigne, c'est plus compliqué que ça. Il y a le vent, il y a les courants. Donc il y a une vraie incertitude sur l'emprise des dommages.
Est-ce que l'anthropologue que vous êtes diriez que, en dehors de fausses, on vit dans une société exposée au risque chronique ?
Tout à fait. Dans mon travail, je fais très attention à ne pas présenter les sites sur lesquels je travaille comme des repoussoirs. Je sais que régulièrement, dans la presse, on nous présente des palmarès. Telle ville devient la capitale de la pollution. Pour un moment, j'ai travaillé dans beaucoup de villes comme ça, avant de revenir sur ce territoire-là que je connaissais enfant. Et en fait, ces territoires-là, c'est un peu des avant-postes. J'ai un collègue, Mathieu Dupérex, qui parle de territoires sentinelles. C'est des territoires qui subissent de plein fouet ces grandes transformations environnementales, sanitaires, qui sont générées par le productivisme, employons les mots, ou même le capitalisme, mais qui sont révélateurs de choses qu'on vit de manière plus diffuse, moins visible, moins appréhendable dans d'autres territoires. Parce que la pollution, elle ne s'arrête évidemment pas aux limites communales, elle se diffuse. Et je trouve que dans ces territoires-ci, où les gens, ils ont appris aussi à partir de leur expérience professionnelle, puisqu'il y a des ouvriers qui vivent ici, ils apprennent à reconnaître les panaches. Du coup, ça a nourri les mobilisations, ça a nourri aussi des formes d'engagement dans l'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions. Sur ces territoires-là, il y a une réflexivité, des apprentissages qui ont été engrangés sur la pollution, sur l'habiter avec la pollution, qui seraient riches d'enseignements pour d'autres territoires.
Il y a 3 ans, je crois, oui, c'était après le Covid, donc avec une amie, nous faisions un parcours Bonnieux, Saussé, La Couronne. Nous sommes des marcheuses quand même, hein. On ne court pas, on marche. Et puis un soir, je lui dis, tu sais, arrête, j'arrive plus à respirer, j'ai une pointe dans le dos, il se passe quelque chose, et puis je suis rentrée chez moi. Mais le matin, je respirais plus, j'étais pas bien. Je téléphone à mon médecin traitant. Elle m'a examinée, elle a téléphoné directement au radiologue. Alors à la radio, diagnostic, emphysème pulmonaire. L'emphysème pulmonaire peut entraîner une insuffisance respiratoire, ce qui veut dire que si je ne prends pas soin de ma respiration, je vais terminer avec de l'oxygène. Je n'ai jamais fumé de ma vie, jamais. Donc, cette amie a pris l'initiative de demander les courbes de la pollution juillet et août. Eh bien, on aurait dû s'abstenir que de marcher le long de la côte pendant cette période-là où vraiment la pollution industrielle, je l'ai prise de pleine face.
L'Institut, dans sa recherche justement des voies de transfert, des polluants, de l'environnement jusqu'au corps humain, a mené une étude qui s'appelle Index et qui est une étude de bio-imprégnation humaine aux polluants et aux polluants qui sont caractéristiques de la zone. Le principe, c'est de mesurer la quantité de polluants dans le sang et les urines d'une population, qui était une population de 140 personnes, exposées et non exposées. Et on a mesuré le sang et les urines en une cinquantaine de polluants spécifiques de la zone, donc entre des métaux et des polluants organiques. Donc ça, c'était pour constater la présence de polluants au sein des organismes, mais de façon plus complète, pour voir par quels moyens ces polluants arrivent dans l'organisme. Et donc, étaient associées à ces mesures de bio-imprégnation toute une série de questions qui renseignaient sur le mode de vie, sur les habitudes, sur le métier, sur etc., des gens qui étaient analysés. Donc ça, c'est l'étude Index, et qui a eu pour résultat de montrer que les populations donc, qui habitaient à proximité des industries à fosses étaient imprégnées en une certaine forme de dioxines. Donc les dioxines sont des polluants avec de grandes chaînes carbonées qui ont la propriété malheureuse d'être toxiques et de provoquer certains cancers. Et également, l'imprégnation des populations phocéennes concernait le plomb, le cadmium et un autre métal qui s'appelle le vanadium. Donc ça, c'est l'étude Index. Et au même moment, le centre hospitalier de Martigues constatait dans sa patientèle une augmentation préoccupante des cas de diabète des deux types et se demandait ce qui provoquait cette augmentation d'incidence. Et donc la relation qu'on a entre l'Institut éco-citoyen et les acteurs, à la fois les acteurs de la recherche et les acteurs de santé, ces relations ont permis en fait de mettre en commun et d'associer les constatations médicales et les résultats environnementaux en mettant le doigt sur le cadmium, qui est connu pour être l'un des facteurs chimiques d'apparition du diabète.
Bien souvent, sur les questions de maladies chroniques, ou voilà, typiquement par exemple le diabète, dans les parcours des patients et des patientes, des personnes malades, l'accent peut être mis sur des comportements individuels. L'alimentation, une mauvaise hygiène de vie, des traumas personnels pour certains types de maladies auto-immunes. Alors qu'en fait, ce que vous nous démontrez, c'est qu'il y a aussi des causes systémiques. Et qu'en fait, si on connaît pas ces causes systémiques-là, on aura beau faire de la prévention à niveau individuel, les maladies chroniques continueront de se développer.
Absolument. Alors, on peut toujours réduire l'apparition des maladies par des facteurs individuels. Mais pour mener une politique de prévention, une politique publique de prévention des risques environnementaux, ou en tout cas de l'amélioration de l'état de santé d'une population, on doit étudier tous les facteurs, enfin un nombre de facteurs le plus étendu possible. Donc les facteurs individuels, certes, mais dans quel contexte? Et quels sont les facteurs qui favorisent les facteurs individuels? Parce qu'il est assez, à la fois trop facile et assez blessant, quand on est malade, d'être accusé d'avoir provoqué par son comportement seul l'apparition de sa maladie. C'est même assez injuste. Donc la recherche en santé environnementale permet de resituer le patient, de resituer le malade dans un contexte qu'il n'a pas forcément maîtrisé. Et donc certes, il y a eu une responsabilité individuelle, mais il y a d'autres responsabilités, ce qui amène quand même à réduire cette impression de culpabilité.
Ceux qui ont la responsabilité de la santé publique, je pense qu'on l'oublie, ce sont les responsables politiques, ce sont les gens qui votent les lois, tout simplement. Une fois qu'un produit, qu'une substance, elle est massivement distribuée dans l'environnement et dans les populations, il devient très difficile, en fait, d'avoir le fin mot de l'histoire, de savoir exactement ce que ça a fait, etc. Il y a 1000 exemples. Aujourd'hui, on se rend compte que des pesticides qu'on a utilisés pendant 50 ans se dégradent sous la forme de métabolites qui sont parfois aussi actifs que la molécule mère. Donc qui ont un impact sur la biologie des individus, et qu'on n'a pas suivi. Tout ça, on n'a pas suivi ces métabolites, on n'a pas suivi ces produits de dégradation, tout simplement parce que ce n'était pas exigé dans la réglementation. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, on se rend compte que les nappes phréatiques sont massivement contaminées par ces produits. Tout simplement parce que la loi n'a pas exigé plus de précautions de la part des industriels. Si on s'en tient à l'intention du législateur et de l'opinion, et même du sens commun, on ne devrait pas être plus fréquemment ou plus gravement malade de l'autorisation de tout un tas de produits ou d'installations industrielles ou ce genre de choses. Ça ne devrait pas arriver. Personne n'est d'accord avec ça. Et pourtant, ça arrive. Donc c'est bien que, dans le fonctionnement général du système, il y a des failles, il y a des dysfonctionnements graves qui rendent, finalement, quelque part inéluctable, quelque chose qui est réputé inacceptable par la population et même par les décideurs, en fait. Même les députés qui votent ces lois n'ont pas pleinement conscience des conséquences que ça va avoir sur la santé publique et sur l'environnement.
Mais il y a bien des institutions dans notre société dont le travail est de faire la liaison entre la recherche et le législateur, ou la recherche et le citoyen.
Alors ces institutions, ce sont les grandes agences sanitaires. En Europe, il y en a deux principalement, l'EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité des aliments, et l'ECA, l'Agence européenne des produits chimiques. Et au niveau national, en tout cas c'est le cas en Europe, il y a tout un tas d'agences qui sont en relation avec ces deux autorités. En France, c'est par exemple l'ANSES qui fait ce travail. Mais là où il y a une sorte de malentendu entre les responsables politiques et ces agences, c'est que quand ces agences donnent un avis réglementaire, elles le donnent sur la foi de la réglementation, c'est-à-dire de ce qui a été voté par les hommes politiques. Et les hommes politiques se fient aux conclusions de ces agences en disant aux gens « mais moi, je me fie à la science ». Et non, c'est pas la science. Ces agences, quand elles rendent des avis réglementaires, quand elles autorisent des produits à être mis sur le marché, elles n'appliquent pas la science. La science, ça veut rien dire. Elles appliquent un cahier des charges réglementaires qui leur est imposé par la loi. Donc en fait, on a une situation dans laquelle le serpent se mord un petit peu la queue, où les hommes politiques nous disent « je crois en la science, je suis les recommandations de l'agence X ou Y », et où l'agence X ou Y dit « moi, j'applique la réglementation et je rends mon avis sur la foi de celle-ci ». Donc, il y a une sorte d'incompréhension. Je ne sais pas si elle est construite ou pas. En tout cas, ça fait partie de ces dysfonctionnements et de ces failles qui rendent possible ou inéluctable ce qui est réputé inacceptable par les gens, par vous, par moi, par les hommes politiques, etc.
Nous voici maintenant à la croisée des chemins. Deux routes s'offrent à nous, mais elles ne sont pas également belles. Celle qui prolonge la voie que nous avons déjà trop longtemps suivie est facile, trompeusement aisée. C'est une autoroute où toutes les vitesses sont permises. mais qui mène droit au désastre. L'autre, le chemin le moins battu, nous offre notre dernière, notre unique chance d'atteindre une destination où notre civilisation trouvera le salut. Après tout, le choix nous appartient. Printemps silencieux, Rachel Carson, 1972.
Aujourd'hui, il y a une conscience de la part des grandes agences de l'État, comme Santé publique France, sur le fait qu'il est nécessaire d'avoir plus de connaissances pour pouvoir mener les politiques publiques. En ce qui concerne le milieu industriel, nos rapports avec les industries sont, dès le départ, institutionnels, je dirais, puisqu'ils sont présents au conseil d'administration de l'Institut, pour observer, essentiellement, et pour nous faire remonter certaines données. Cela dit, on sent bien, avec les problématiques de réindustrialisation et de mutation industrielle qui vont arriver, on sent qu'on risque d'avoir la même situation qu'au début des années 70, quand on parlait de progrès et que les investissements industriels ont été menés massivement sur le développement de l'outil industriel au dépens de la connaissance sur les effets environnementaux de ce qu'on inventait. Et là, on tire une petite sonnette d'alarme sur le fait d'aller peut-être un peu les yeux fermés sur une mutation industrielle sans forcément aller vers le type de matériaux qu'on va utiliser, sur les conséquences en matière énergétique. Et cette sonnette d'alarme, elle sonne sur la nécessité de construire aussi en même temps les garde-fous et de se servir de l'expérience des années 70 pour ne pas répéter les erreurs du passé. On a besoin de cette mutation industrielle et de la décarbonation, mais ça ne doit pas être fait dans n'importe quelles conditions. Là, aujourd'hui, les moyens mis dans la recherche publique sur la connaissance des effets des matériaux utilisés dans la décarbonation ne sont pas suffisants au regard des investissements mis dans le développement des produits. On court le risque aujourd'hui d'être aveugle, de s'aveugler, disons, et de se réveiller dans quelques dizaines d'années avec des contaminations de substances qui étaient pourtant identifiées dès le départ et qu'on n'aurait pas étudiées.
On ne voit que les aspects positifs de l'activité économique et industrielle, du fait de développer de nouveaux produits, de l'innovation en quelque sorte. C'est très valorisé l'innovation. Tout le monde est pour, il n'y a personne qui est contre l'innovation quand même. Mais cette innovation, elle est uniquement vue au travers du prisme positif des effets qu'elle peut avoir sur la société et pas du tout des dégâts, quoi. Comme si les dégâts étaient finalement quelque chose d'un petit peu collatéral, annexe, qu'on va pouvoir de toute façon régler par plus d'innovation. Donc en fait, voilà, on est dans une sorte de cercle vicieux en quelque sorte. Je pense que les choses ne vont pas s'améliorer. Tout simplement parce que aujourd'hui, la création de richesses provoque plus de dégâts que de bénéfices, en tout cas en termes de santé publique, quoi. Il y a très peu de signes qui montrent que l'innovation technique, que ce soit par exemple pour l'alimentation, ce genre de choses, l'innovation, en fait, elle est plus délétère pour la santé publique que bénéfique. Et on le voit de manière empirique dans certains pays comme par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, l'espérance de vie n'augmente plus depuis plus de 10 ans. Donc en fait, l'idée que l'espérance de vie serait une sorte de grand intégrateur qui fait le tri en fait en quelque sorte et qui montre que bah oui, puisque l'espérance de vie continue à augmenter, c'est bien que la poursuite du projet économique de nos sociétés est plutôt bénéfique pour la santé publique que délétère. Eh bien en réalité, ce constat-là, qui a marqué tout le XXe siècle et tout le XIXe siècle, ce constat-là en fait commence à ne plus être vrai.
Est-ce qu'on peut espérer un jour que du crédit soit accordé aux problèmes de santé chroniques ou est-ce que c'est un corollaire auquel il va falloir s'habituer?
Moi, j'ai pas de boule de cristal, donc je sais pas comment les choses peuvent évoluer. Ce que je pense, c'est qu'on est déjà en situation, aujourd'hui, d'accepter, en fait, ce qui est en train d'arriver et ce qui probablement aurait été jugé complètement inacceptable il y a quelques décennies. Et tout dépend de la ligne de référence, la ligne de base, quoi. On est, en quelque sorte, maintenant, habitué à ce que des femmes, entre 40 et 50 ans, aient des cancers du sein. C'est quelque chose qui est devenu presque banal. C'est devenu tellement banal qu'on voit, par exemple, dans des fictions, au cinéma, dans des romans, en fait, la maladie arriver chez des sujets jeunes et faire partie de l'histoire, faire partie des fictions qu'on se raconte. C'est quelque chose qui a été un petit peu normalisé, qui est toujours vécu de manière tragique, évidemment, puisque un cancer, c'est une maladie grave. Mais c'est quelque chose qui a été plus ou moins intégré comme quelque chose de, voilà, comme une fatalité, quoi. Et je crois qu'on va continuer, en fait, à accepter ça, parce que l'éventail de tout l'argumentaire, de toute la rhétorique qui est servie dans l'espace public pour faire accepter ça aux gens, le fait que c'est génétique, c'est les facteurs de risque individuels qui sont liés au comportement, c'est la faute des gens, en fait, le fait que les causes structurelles, politiques, systémiques de ces maladies soient systématiquement occultées au profit d'une mise en majesté, d'une mise en avant systématique des causes individuelles, eh bien, ce simple fait va, à mon avis, continuer à nous faire accepter ça pendant un bon moment. Ouais. Et c'est vrai pour les maladies chroniques, c'est vrai pour tout un tas de choses. Et moi, je suis toujours surpris quand on parle de l'émergence de l'endométriose, des troubles du neurocomportement, de l'autisme, le fait que tous ces troubles augmentent dans la population. Quand vous avez ça qui est discuté sur les plateaux de télé, à la radio, etc., à presque aucun moment, il n'est question de savoir pourquoi. Mais pourquoi est-ce que ça augmente? Et c'est une question qui finalement disparaît complètement devant d'autres questions qui sont celles du traitement, de la prise en charge des soins, comment on va financer tout ça, est-ce que l'intelligence artificielle va nous sauver, etc., etc., des progrès, des médicaments, etc. Donc en fait, on a une société qui est complètement obnubilée par la création de richesses, plus que par les dégâts qui sont provoqués par cette création de richesses. Et quelque part, c'est tragique de le dire comme ça, mais c'est à mon avis vrai, c'est que une maladie, c'est aussi de la création de richesses. Une maladie, c'est des médicaments, c'est de l'activité dans les hôpitaux, c'est des médecins, c'est de l'intelligence artificielle pour imaginer les systèmes pour mieux guérir, mieux diagnostiquer, etc. Et donc finalement, on s'accommode aussi de ça parce que ça nourrit l'activité économique des sociétés. Alors je pense que c'est un peu complotiste de le dire comme ça, mais en réalité, c'est quelque chose qui est complètement encastré dans la manière dont on considère les choses et le monde.
Merci à Philippe Chamaret, Maxime Jean-Jean, Patrick Courtin, Christelle Gramaglia, Laetitia et Stéphane Foucard. Merci aussi à Christiane De Félis et Claude Chéhérian de la Devimap, Stéphane Aurel et Anti. Prise de son, Jeffrey Marianne et Manon Houssin. Documentation, Anne-Lise Signoret et Antoine Vuilloz. Mixage, Pierre-Henri. Chargé de programme, Marie-Vonne Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Maladie chronique, ce qui nous traverse. Troisième épisode, Nos corps pollués. Un documentaire d'Alice Le Filleul, réalisé par Julie Bérécy.
Le ciel essaie de nous avertir, des nuages toxiques se déplacent, tels des montgolfières, des ballons dirigeables, remplis, débordants, non pas d'hélium, mais d'un nombre incommensurable, de pensées négatives se dispersant. La pollution, ce n'est pas le diesel, ce sont les ondes de ton cellulaire, l'hépatique, l'insomnie due à ton univers, antipathique, cette nuit qui t'astique, la vie au passé douteux, à faire glacer, ne regarde pas derrière, car hier était un jour plus vieux.
Hier était un jour plus vieux, l'armée des douze.
Seul en douce, pestilentiel à l'état gazeux, je suis la fumée qui s'échappe de ton pot d'échappement. Je termine dans le ciel à l'état vaseux, je gonfle tes poumons jusqu'à l'éclatement. J'envahis ton système nerveux, tes veines me servent, volé au duc, les mâles se traînent, collés aux putes, mauvaises augures encore.